On est en train d'écouter la lettre aux Galates pendant ces quelques semaines. Et je ne sais pas si vous avez déjà reçu cette impression, mais il y a plein de controverses dans le livre de Galates. C'est un livre à controverses. Et on peut réagir à ça différemment. Il y a certains chrétiens qui disent « Oh, chouette, des controverses. On va pouvoir se battre. » On va pouvoir montrer qui a raison, qui a tort. Et puis, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas beaucoup les disputes, n'aiment pas trop les débats théologiques, préfèrent arrondir les angles, jamais dire des choses qui choquent. Et la lecture d'aujourd'hui dérange. Ce n'est pas qu'il y ait une soif de querelle. Mais on va voir qu'en fait, on commence à se disputer un petit peu dans ce chapitre, chapitre 2 du livre de Galates. Pourquoi est-ce qu'ils se disputent? Ce n'est pas qu'ils aiment simplement ne pas être d'accord, ou qu'ils ont envie d'avoir des disputes de mots, des querelles. C'est plutôt qu'il y a certains sujets qui sont si importants qu'il faut les défendre, qu'il faut les clarifier. Qu'il faut dire les différences, qu'il faut dire là on n'est pas d'accord. Et les différences doivent être réglées. Ce n'est pas pour tout. Il y a certains sujets pour lesquels on peut dire, bon, tu as un point de vue et j'ai un autre point de vue et ce n'est pas grave. Mais sur certaines choses vraiment importantes, la controverse est nécessaire et nous appelle à prendre position. Et c'est ainsi qu'on découvre un peu ce qui se passe. On était en Galates chapitre 2. Et je vais reprendre au verset 11. Sous le titre « Nous sommes affranchis pour vivre », on va essayer de comprendre comment nous sommes affranchis, mais ce que nous devons vivre avec le Seigneur. J'espère que vous l'avez sous les yeux, Galates chapitre 2, verset 11. « Mais, lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé, s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» Nous, nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. La semaine passée, nous avons entendu, vous avez entendu, que tout se passait bien à Jérusalem. Paul était allé là, et c'était en fait pour se présenter aux uns et aux autres qui étaient les disciples, l'Église à Jérusalem. Et Paul se présente au verset 2 en disant qu'il voulait présenter l'évangile, il leur a présenté l'évangile qu'ils prêchent parmi les non-juifs. Je leur ai exposé ça. On voit aussi que, verset 7, ils ont vu que l'évangile m'avait été confié. Donc tout se passait bien. Paul prêchait l'évangile et eux ont dit « Oui, mais tu prêches l'évangile. » La main d'association lui avait été donnée. C'est-à-dire ils avaient dit « On est d'accord avec toi. » Paul, ton message est le même que notre message, c'est le message de Christ, le message qui sauve, le vrai évangile. Et quand ils ont dit, oui, en fait, il y a juste une chose, on voudrait aussi que tu t'occupes des pauvres, il a dit, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Donc jusque-là, à Jérusalem, tout se passait bien. Ça va? Mais, ici on est à Antioche, dans une autre ville, et là on découvre une opposition qui commence entre Paul et Pierre, qui étaient d'accord jusque-là. Ils commencent à utiliser des mots comme condamnable, hypocrisie, et ne marchait pas droit. C'est quand même fort d'entendre ces mots, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il est en train d'utiliser ces mots? Parce que, il révèle, verset 14, il ne respectait pas la vérité de l'Évangile. On va essayer de comprendre pourquoi ou comment il ne respectait pas la vérité de l'Évangile. Mais on comprend tout de suite à travers ces mots que c'est quelque chose de grave. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. C'est quelque chose de grave qui est en train de se passer là avec Pierre pour qu'il soit condamnable. Et il entraînait d'autres personnes avec lui, Barnabas et d'autres aussi. Alors quelle est cette question qui divise? On va voir petit à petit, à travers ces versets, de quoi il s'agit. Tout d'abord, je vis avec d'autres chrétiens. Paul veut encourager les chrétiens, Galatiens, les nouveaux chrétiens, à vivre avec d'autres chrétiens. Par là, je ne veux pas dire, évidemment, nous vivons ensemble sans être mariés comme si on était mariés. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Je ne parle pas non plus que tous les chrétiens, nous devons vivre dans à la même adresse, dans un bâtiment, tous venir habiter avec des maisons ensemble. Ce n'est pas exactement ça. Mais c'est plutôt qu'il faut nous rapprocher et pas nous séparer d'autres chrétiens, même si leur arrière-plan est différent du nôtre. Surtout s'ils sont de notre église locale. On va devoir vivre les uns avec les autres. Juste pour expliquer un peu ce qui se passait avec Pierre et les non-juifs, Pierre, en fait, avait annoncé la bonne nouvelle et avait côtoyé des chrétiens qui ne venaient pas d'origine juive. Lui était juif, mais il se mélangeait aux chrétiens non-juifs d'origine. Il mangeait avec eux. Dieu lui avait instruit, Jésus lui avait montré qu'il ne devait pas appeler impur ce que Dieu avait appelé pur. Donc il pouvait manger du porc ou des choses comme ça, il pouvait manger en compagnie de personnes qui n'étaient pas juifs comme lui était juif. Mais après, verset 12, il y a eu l'arrivée d'autres personnes. Des personnes qui sont venues de Jérusalem, de là où Jacques était pasteur. Et donc, qui étaient juifs d'origine et qui étaient probablement encore assez stricts dans leur façon de vivre. Et là, Pierre a hésité. Il a dit, je sens un peu mal à l'aise, alors je me retire des chrétiens non-juifs et de leur nourriture, et je vais plutôt manger à part avec ceux qui sont juifs comme moi. Et donc, ils mangeaient séparément. Et là, c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible quand on comprend son arrière-plan. Quand vous êtes né juif, un homme juif, un garçon juif circoncis, après 8 jours de vie, il apprend qu'il est différent des autres. Les juifs doivent être séparés des autres. On ne mange pas les mêmes choses, on ne mange pas ensemble, on ne se mélange pas avec les autres nations. Pierre avait été éduqué avec ça. Barnabas et les autres devaient être affranchis de tout cela, mais il y avait encore quelque chose qui restait. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient profondément et de manière permanente, maintenant, unis aux chrétiens non-juifs, aux chrétiens venus d'ailleurs. Parce qu'ils voulaient la faveur des chrétiens juifs, ils se séparaient de leurs frères. Vous savez que parfois dans la vie, il y a des symptômes qu'on a dans notre corps et on ne sait pas exactement si c'est grave ou pas. Et certains symptômes ne semblent pas tellement graves. Vous allez chez le médecin, vous avez une toux et il vous ausculte et puis il dit en fait vous avez un rhume. C'est pas grave. Mais pareillement, vous pouvez avoir parfois des symptômes qui ne semblent pas tellement gênants. Vous venez, vous dites voilà, j'ai une toux, je tousse un petit peu, et il décèle que vous avez en fait le cancer du poumon. C'est extrêmement grave. Donc ici, ce qu'on doit essayer de découvrir, c'est que ça ne semble pas tellement grave qu'ils ne mangent pas ensemble, ils mangent avec d'autres, ils se mettent un peu à part pour manger. Mais ce qui est vraiment grave derrière, c'est quoi en fait? c'est que la vérité de l'évangile, verset 14, unit des gens de différents arrière-plans. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre à vivre ici à LifePoint. Le mot d'ordre, en quelque sorte, va être pas de favoritisme. Quel que soit ton arrière-plan, que tu sois américain, africain, européen, australien, du moment que tu parles français, même si tu ne parles pas bien français, du moment que tu parles français, que tu aimes Jésus, tu seras le bienvenu. Il n'y aura pas de favori, pas de favoritisme. Mais en fait, Paul remarque qu'il y avait ce favoritisme qui était entré dans le cœur de Pierre, de Simon-Pierre. Et donc, quand il l'interpelle, verset 14, il lui dit, « Toi, qui es juif, » et il va l'offenser, en fait, il va offenser tout le monde. Il dit, « Tu vis à la manière des non-juifs, et non à la manière des juifs. Pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» Vous imaginez qu'il était offensé par ça. Les juifs entendaient que Pierre était en train de vivre comme les non-juifs. Et les non-juifs entendaient que Pierre était en train de les forcer à vivre de manière juive. Alors tout le monde était un peu offensé par cette remarque de Paul. Mais Paul a osé dire cela parce qu'il sentait, il était censé être affranchi pour vivre avec tous les chrétiens. Et pas juste avec certains chrétiens. Mais deuxièmement, nous voyons ici qu'ils sont affranchis. Nous sommes affranchis pour vivre la justification. Je vis parce que je suis justifié. C'est le prochain point. Je vis parce que je suis justifié. Il entre au verset 15 vraiment dans la mentalité juive. Regardez verset 15. Nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. C'est comme ça qu'ils pensaient les juifs, n'est-ce pas? Et il y avait dès leur naissance, dans toute leur éducation, dans toute leur vie, une séparation très claire et nette entre les juifs d'un côté et les non-juifs de l'autre côté. Et tous les non-juifs, de quelques horizons qu'ils soient, de toutes les nations, c'était les mêmes. Et tous les juifs de la diaspora juive, ils étaient tous les mêmes aussi, ils étaient considérés comme à part. Et la séparation claire montrait que pour les juifs, c'était la loi qui comptait, la loi de Dieu, la loi de Moïse, avec la circoncision, bien sûr, au départ pour les garçons, mais aussi le sabbat pour tout le monde, on s'arrêtait le samedi, on ne travaillait pas le samedi. La nourriture, il fallait manger certaines choses, ne pas manger d'autres choses. C'était visible. Ils avaient leur coiffure qui était différente, leur façon de s'habiller qui était différente. On voyait qu'ils étaient juifs, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi, tout au long de la semaine, on était en train de préparer le samedi pour qu'on ne travaille pas le samedi, qu'on ait à manger. Mais il y avait aussi durant l'année, il y avait des fêtes particulières pendant l'année, où on devait se rendre à Jérusalem. Donc il y avait quand même ces aspects de congés, de fêtes, qui étaient dans le rythme de l'année. Donc c'est depuis la naissance, c'est tout au long de la vie, c'est tout au long de la semaine, dans tous les domaines de la vie, on est juif ou on n'est pas. Et la loi de Dieu, non seulement imposait ces choses-là, mais imposait aussi de ne pas mentir, de ne pas prendre le nom de Dieu à la légère, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas voler, etc., etc. Mais ce n'est pas sur la base de ses œuvres d'obéissance que l'homme est considéré comme juste ou déclaré juste, dit verset 16. En fait, Paul, c'est un aspect clé de la bonne nouvelle. C'est tellement important qu'au verset 16, il le dit trois fois. Nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, premièrement, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Et puis une troisième fois, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Il le dit trois fois pour qu'on puisse bien comprendre, bien saisir cela. Nous sommes libres de la loi dans notre recherche de notre justification. C'est une question importante pour nous, cette question de justification. Parce que, au final, comment est-ce qu'on peut se sentir juste? Comment savoir qu'on est une bonne personne aujourd'hui? Et il y a beaucoup de gens autour de nous qui cherchent à être acceptables, être de bonnes personnes. Bien sûr, bien entendu, Ça a son importance lorsqu'on rencontrera Dieu et que Dieu nous examinera pour savoir si nous sommes justes. Mais souvent, quand on pose la question, est-ce que tu es une bonne personne? La réponse que les gens donnent, c'est « Ah, mais je n'ai jamais... Oh, je n'ai jamais... ça ou ça ou ça. » Ou « J'ai toujours... Oh, j'ai toujours fait le bien que je devais faire. » Ce n'est pas vrai, évidemment. Mais c'est ce que les gens disent. « Je n'ai jamais ou j'ai toujours. » Mais c'est toujours une façon de dire « Je, moi... » Moi, je suis juste parce que moi, j'ai fait quelque chose ou je n'ai pas fait quelque chose pour que je reste juste devant Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le seul qui puisse nous rendre juste, c'est Christ. Et c'est par notre union à Christ, comme il va l'expliquer tout à l'heure, que nous pouvons être justes. Et donc, au verset 17, il explique le changement qui a eu lieu. En cherchant à être déclarés justes en Christ, nous qui étions juifs du côté des juifs, pensant que nous étions acceptables à Dieu, nous nous trouvons en fait du côté des non-juifs, parce que nous nous trouvons pécheurs, exclus du royaume de Dieu. La loi de Dieu ne me sauve pas, en fait elle ne sauve personne, mais je reconnais cela et je me retrouve du côté des non-juifs. Nous avons été trouvés pécheurs, inadéquats, inacceptables, pas qualifiés pour le royaume de Dieu, pas acceptables par Dieu tel que nous sommes, avec tous nos péchés et toutes les fois où nous avons désobéi à Dieu. Alors est-ce que ça veut dire que Jésus va promouvoir le péché? Qu'il va dire, ah mais c'est pas grave, hein, vous faites ce que vous voulez, la personne n'est parfait, donc voilà, c'est pas grave. Moi, de toute façon, je vous accepte tel que vous êtes, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a du favoritisme qui a changé de camp, au lieu d'être favoritisme envers les juifs, maintenant c'est le favoritisme envers les pécheurs. Non, absolument pas. Ce n'est pas ça. Je ne peux pas vivre dans le péché. Ma vie est différente. Et Paul est particulièrement conscient de cela. La nécessité de ne pas reconstruire la loi. Parce que si on reconstruit la loi et on reconstruit cette séparation, en fait, on se retrouve du mauvais côté, condamné par la loi de Dieu et pas acceptable par Dieu. Nous sommes pécheurs, et la loi le dit très clairement, nous sommes pécheurs et nous sommes incapables de nous sauver. Alors, mes amis, nous ne devons plus compter sur nos œuvres pour notre statut devant Dieu. C'est important. Bien sûr, au début de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, de ne plus compter sur nos bonnes œuvres. Nous ne sommes pas justifiés à cause de bonnes œuvres. Mais c'est important aussi, quand nous avançons dans la vie chrétienne, que nous ne commençons pas à dire « Ah, mais je suis quand même quelqu'un de bien. » Il y a des bonnes raisons de faire le bien, mais ça ne peut pas être pour se sentir juste, meilleur que les autres, acceptable à Dieu. Et le principe est celui-ci. Je vis parce que je suis justifié, vous voyez? Je vis la vie chrétienne parce que je suis justifié et pas pour être justifié. Tu lis la Bible, tu pries, tu vas à l'église, tu essayes d'aimer ton prochain, tu essayes de parler de Jésus aux autres, c'est très bien. Mais tu le fais parce que tu es justifié et pas pour que Dieu t'accepte sur la base de ce que tu as fait. Alors le plus beau est à la fin. Troisièmement, je vis par la foi au Fils de Dieu. Il y a un avant et un après dans la vie chrétienne. Avant, c'était ce qu'on peut appeler le vieil homme. Mon ancien moi, mon ancienne façon de vivre, mon ancienne nature qui dominait. Maintenant, je suis un homme nouveau. L'ancien moi a été crucifié avec Christ. C'est fini l'ancien moi. Ce n'est plus moi qui conduis, qui fais ce que je veux avec mon temps, avec ma vie, avec mes relations, avec mon travail, avec mon avenir. Non, c'est fini l'ancien moi. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui vit. Et non, peut-être que quelqu'un de votre entourage qui vous a connu avant votre conversion, avant que vous ayez donné votre vie à Christ, va dire, mais où est-il Ce gars-là qui venait boire avec nous à nos fêtes, qui était toujours là pour mettre l'ambiance, qui était ivre-mort, mais il est où? Tu peux dire, ben, il est mort. Ou quelqu'un pourrait dire, mais où est-elle, cette femme qui draguait, qui changeait souvent de partenaire? Ben, elle est morte. Elle ne vit plus. Cette personne n'existe plus. Vous voyez, le christianisme, ce n'est pas juste une option philosophique que quand vous devez choisir à l'école, vous êtes dans quel cours de religion, à quelle religion est-ce que ça vous intéressez. Ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est un changement total de vie, de mort et de vie. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, quoi? Qu'il lise la Bible? Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit venir à l'église? Non. Si quelqu'un veut être mon disciple, Jésus a dit, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est un fameux engagement. Et peut-être que tu es là en train de dire, en fait, c'est un plus grand engagement que je ne pensais, ce christianisme. Moi, je pensais que c'était juste voilà, ce qu'on fait du dimanche matin, si je viens à l'église ou pas, si j'ai envie, etc. Mais non. Jésus veut toute ta vie et il veut que tu meures. Très souvent, jour après jour, année après année, ne pas poursuivre ce que tu aurais envie de faire ou ce que ton ancien moi aurait envie de faire. La médisance, la fraude, la manipulation de ton entourage pour avoir ce que tu veux, le mensonge pour avoir l'air meilleur, la convoitise de ce qu'ont les autres, la gourmandise pour te satisfaire, la paresse. Non, on résiste à tout cela. On met à mort tout cela. Donc j'ai une question pour toi. J'aimerais que tu réfléchisses chacun individuellement par rapport à ce que tu vis. Ne dois pas répondre à haute voix. Mais à quoi as-tu renoncé depuis que tu es chrétien? Qu'est-ce que tu as abandonné depuis que tu es chrétien? Qu'est-ce que tu refuses de faire, de pratiquer, de voir, d'accompagner? Et si tu me dis rien, je n'ai renoncé à rien, je vais dire, ben, tu as probablement pas saisi en fait ce que Dieu demande de toi. Tu n'as pas saisi ce que c'est vraiment de suivre Jésus. Mais il y a une vie à vivre. La bonne nouvelle, c'est que oui, nous mettons à mort notre ancienne nature, notre ancien moi. Ce n'est plus lui qui vit. Mais ce n'est pas qu'on n'a plus de vie. On pourrait craindre ça, n'est-ce pas, qu'il nous dise, voilà, maintenant, voilà, ma vie est terminée, je reste chez moi et je ne fais plus rien. Non. Paul enchaîne en disant, la vie que je la vis dans mon corps, c'est une vie corporelle, c'est une vraie vie, une vie présente, je vis par la foi. Le vieil homme est crucifié, mais le nouvel homme est vivant. Et donc je vis à présent. Je ne reste pas chez moi simplement en attendant que Jésus revienne ou que je meure et que Jésus revienne. J'ai une vie à vivre. Nous avons une vie à vivre par la foi en qui? Tout simplement en la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Verset 20. Ce verset est tellement important qu'on a fait une petite carte qu'on puisse retenir cela. Et aujourd'hui, vous pouvez vous servir de cela, c'est gratuit. Prenez ça chez vous, mettez ça sur votre miroir ou sur votre frigo. Quelque part, vous allez le voir souvent. Dans votre Bible, c'est pour vous rappeler cette vérité. Nous vivons par la foi ou dans la foi au Fils de Dieu. J'ai un problème avec ceux qui parlent simplement de valeurs, de droiture, de pratiques chrétiennes, même de foi en Dieu et qui ne parlent jamais de Jésus. Parce que notre foi est en Jésus. C'est lui que nous aimons, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des gens qui étaient très droits et très pratiquants et très religieux, ils s'appelaient les pharisiens. Et eux, ils n'aimaient pas Jésus. Ce qui démarque les chrétiens des pharisiens, c'est que nous aimons Jésus, nous le reconnaissons comme le Fils de Dieu qui doit régner dans notre vie. et de dire, en fait, finalement, je ne peux pas vivre sans Jésus. Parce que j'ai saisi que lui m'a tellement aimé, et vous a tellement aimé, il s'est donné lui-même pour nous. C'est ça, en fait, qui nous unit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a en commun? Peut-être qu'on ne regarde pas les mêmes films, ou on n'aime pas la même musique, ou on n'a pas la même nationalité. Qu'est-ce qui nous unit? C'est que nous sommes tous pécheurs à la base, nous sommes tous justifiés par sa grâce, et nous sommes tous aimés par le Sauveur Jésus. Quelle bienveillance à notre égard, qu'il aime des gens comme nous, mais il nous aime. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, dit Jean dans son Évangile, chapitre 1, verset 16. Quand Paul écrit par rapport à sa foi chrétienne, il ne se met pas en avant. Il ne dit pas, la vie que je vis dans la foi au Fils de Dieu, que j'ai aimé et pour qui je me suis donné. Il dit non, il m'a aimé, il s'est donné pour moi. C'est Christ qui est au centre. Et la grâce, en fait, nous amène à être très humbles devant lui et très petits devant lui, et à reconnaître qu'il est plus grand que tout, et bien sûr plus grand que tout. Ce qu'il a fait pour nous est beaucoup plus que ce que nous avons fait pour lui. C'est une grâce. Alors on arrive au verset 21, et je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Tout simplement, il n'est pas possible d'être juste par nos bonnes œuvres, par nos efforts. Personne n'est juste. Sinon, s'il y avait quelques personnes qui, par leur obéissance, arrivaient à plaire à Dieu, ben, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus et mourir à la croix. Il aurait dû juste dire, voilà, je vous accepte, vous êtes juste. Il y aurait des gens qui seraient acceptables à Dieu, ben, il les sauverait eux. Mais parce que personne n'est acceptable par Dieu et que personne ne peut être justifié par la loi, il fallait un autre moyen et Dieu a pourvu ce moyen, le seul moyen. C'est que Jésus paye à notre place. Et c'est ce qu'il a fait. Alors nous avons entendu des vérités aujourd'hui qui divisent. Mais ce sont des vérités sur lesquelles il faut insister parce qu'elles sont tellement importantes. Nous sommes affranchis pour vivre avec d'autres chrétiens, avec tous les autres chrétiens qui vivent par la même grâce de nous. Nous n'avons pas à nous séparer les uns des autres en disant, ouais, on n'est pas comme eux. Non, nous ne sommes pas meilleurs que les autres chrétiens, nous sommes les mêmes et donc nous sommes unis. Nous avons entendu aussi que c'est parce que nous sommes justifiés que nous vivons. C'est par notre foi en Christ que nous sommes justifiés. Et nous voulons tenir ferme dans cette justification. Mais troisièmement, nous avons entendu que nous vivons en mettant Christ au centre de notre vie. Est-ce que c'est lourd ça? On dira, oh, mais non, je dois vivre pour Christ, je dois mettre à mort le péché, je dois vivre pour Christ. Non. Est-ce que c'est pénible ça? Non. C'est la grâce. Ça veut dire que c'est un cadeau extraordinaire et on doit en profiter. Alors profitons-en. Je vais prier pour nous. Notre Dieu, nous voulons dire aujourd'hui, nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour. Et nous voulons simplement apprendre à nous appuyer sur Jésus seul pour notre sentiment de justice. Toi qui nous as déclarés justes en Christ, te remercions que tu nous acceptes en Christ et nous te prions, Seigneur, que rien ne nous éloigne de lui, que jamais nous n'ayons une pensée que ah, j'ai bien fait, je suis meilleur que les autres. Je suis acceptable parce que j'ai obéi. Je suis fidèle, je suis bon. Mais plutôt que nous ayons la joie simplement de savoir que nous sommes crucifiés et ressuscités. Et dans cette joie, Seigneur, donne-nous de la persévérance, donne-nous de continuer notre lutte contre le péché et donne-nous de l'amour pour les frères et sœurs qui sont sauvés au même titre que nous. Par la grâce de Christ. Amen.